Interception. Bonjour. C'est une décision rare qu'a rendue le 7 mai le tribunal de grande instance de Paris. Il a condamné l'État pour ne pas avoir suffisamment protégé une jeune femme des violences de son ex-compagnon. Pendant plus d'un an, Audrey s'était réfugiée à plusieurs reprises dans les locaux de la gendarmerie pour échapper aux coups et aux menaces. En vain, elle sera assassinée par son tortionnaire en pleine rue. L'affaire intervient alors que la lutte contre la violence faite aux femmes a été clairement définie comme action prioritaire par le gouvernement. En 2013, 121 femmes sont mortes, victimes des coups de leur conjoint. Des centres d'accueil spéciaux ont vu le jour, des procédures aussi, pour permettre aux victimes d'obtenir de l'aide au plus vite. Mais, et la condamnation dont je parlais en est une preuve, il faut aussi former tous ceux qui, de près ou de loin, ont à traiter de cette violence, les policiers, les médecins et les magistrats. Nous allons aujourd'hui en Champagne, et plus précisément dans le département de la Marne, car c'est l'un des premiers en France à expérimenter un système d'alerte grand danger. Il sera progressivement étendu à tout le territoire national. Pour ce reportage, Monique Desrien et Maïtran ont rencontré quelques-unes de ces femmes qui ont décidé d'aller jusqu'au bout de leur action. Car aujourd'hui encore, on estime qu'une femme sur 10 seulement ose porter plainte contre l'auteur des violences dont elle est victime. Femme battue, les coups de foudre.
Interception, le magazine de la rédaction.
Il a pris un couteau et puis il vous l'a mis sous la gorge, hein, c'est oui. Ça? Donc au mois d'octobre, c'était parce que j'étais au téléphone avec une amie. Mmh. Hein, et il m'avait dit que je devais pas avoir d'amis.
Mmh. Okay, voilà. Ça.
Donc j'ai continué à parler et donc qu'est-ce qu'il a fait avec le couteau?
Il m'a bloqué les bras sur le lit, en fait, il m'a allongé en me bloquant les bras, donc je ne pouvais plus bouger. Et puis, en fait, il a ramené la pointe du couteau, il l'a mis sous ma gorge, en me disant « si tu me trompes, je te tue ».
Et votre fille était où?
Ma fille, elle était sur son lit.
Sur son lit?
Oui, elle était sur son lit.
Après, il y a eu d'autres épisodes de violence?
J'étais partie faire des papiers et je suis rentrée, il était 4 heures. Donc j'ouvre la porte, il me prend la petite et il me pousse, il me laisse dans le couloir de l'entrée. Donc ensuite j'ouvre la porte, je rentre, il emmène la petite dans sa chambre, il ferme la porte de la chambre de la petite. Ensuite il vient et il commence à me crier dessus en me tapant.
Il a mis la petite dans la chambre.
Oui.
Ouais, il est venu vers vous et puis...
Donc il est venu vers moi et il a commencé à me donner des claques, des coups de poing. Des coups de pied, il m'a mis par terre. Ensuite, j'étais comme ça, accroupie par terre dans le couloir. Il commençait encore un peu à me frapper. Ensuite, j'ai couru dans la chambre. Il est venu encore dans la chambre. Il commence à me frapper, à m'insulter. Et j'ai appelé la police.
Leïla est auditionnée par le brigadier-chef Thomas Berthaud, commissariat de Reims. À 21 ans, elle sait déjà tout des violences conjugales, les coups, les agressions sexuelles et psychologiques, la peur, mais aussi les interdits, la culpabilité, l'isolement et le désespoir.
Donc la police est intervenue?
Oui, la police est venue juste après, 5-10 minutes après, et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Donc elle m'avait conseillé de porter plainte à ce moment-là, mais j'ai dit non.
Pourquoi vous ne vouliez pas déposer plainte?
Parce que à ce moment-là, en fait, mes parents ils m'ont dit de ne pas le faire. Ma grande sœur, personne n'était avec moi en fait dans mon entourage. En fait, ils étaient tous contre moi. Ils pensaient que j'inventais de toute tête, comme quoi ils me frappaient, etc. Donc j'ai pas porté plainte et donc après ça, je suis restée chez moi avec ma fille toute seule. Et ensuite, ils commençaient à me faire des menaces petit à petit. Mes parents qui n'étaient pas avec moi, qui ne comprenaient rien, qui étaient de son côté. Mon frère, pareil. Mes sœurs, pareil. Donc, j'avais pas de soutien, j'avais personne. Et après ça, j'ai fait ma dépression pendant... depuis ce jour-là jusqu'au jour où j'ai fait ce qui... Enfin, jusqu'au jour où j'ai voulu... J'ai voulu poser un coussin sur la tête de ma fille. Quoi. Sur le moment même, je ne savais pas ce que je faisais. Quoi. Heureusement que ma sœur est rentrée même pas une seconde après. Sinon, je ne sais pas, Je sais pas si j'aurais laissé le coussin ou si je l'aurais retiré, je sais pas en fait. J'étais désespérée, j'étais, je savais plus quoi faire, j'avais même des envies de me tuer parce que je me disais c'est impossible que tout le monde ne voit pas ce qui se passe. Enfin, qu'ils voient pas comment je suis devenue, c'est impossible.
Pourquoi il est devenu violent alors? Parce qu'au début, visiblement, ça allait bien, toi.
En fait, quand il est arrivé en France, il est devenu violent, je ne sais pas pour quelle raison. Il m'interdisait de sortir, d'avoir des amis, il m'interdisait de m'habiller. J'avais plus le droit de me maquiller, plus le droit d'avoir des amis. Enfin, je devais plus sortir, quoi. Je devais rester qu'à la maison. Mmh. Et en fait, il fallait que je fasse tout ce qu'il me demandait de faire. Si je le faisais pas, voilà, quoi. J'avais le droit à des insultes du genre « ta gueule, t'es qu'une salope, une pute », des trucs comme ça, quoi.
De toute façon, si vous avez quoi que ce soit, vous me passez un coup de fil. Moi, je vous tiendrai informé de quand on convoquera, parce que peut-être qu'on aura besoin éventuellement de faire une confrontation. Est-ce que vous accepteriez de faire ça?
Oui, il n'y a pas de souci. D'accord.
La confrontation, c'est dans le bureau. Hein, oui. On est deux policiers, en général, on est deux. Lui, il est dans un coin, vous êtes derrière. Vous ne parlez pas tous les deux, en fait, c'est nous qui posons les questions. Et chacun répond à son tour. Et faut pas s'en faire dans le bureau. Bon, je sais que des fois c'est pas évident. Bon, on est là. Je vous dis, il n'y a pas d'intimidation, on peut pas se. D'accord. Okay. Hein, bon. S'il y a une confrontation qui est demandée, je vous passerai un coup de fil et puis.
Bonjour madame.
Par la PJ,
vous êtes attendu. Bonjour madame.
Brigitte Duflo, gardien de la paix, l'accueil du commissariat de Reims.
Où nous nous trouvons en ce moment?
Tout à fait. Donc ici au commissariat, concernant spécifiquement les violences faites aux femmes, on a un service de plainte qui les prenne en charge. On a aussi la chance de travailler avec l'association Le Mars, qui a un bureau juste à côté de l'accueil. C'est une association d'aide aux victimes qui travaille sous couvert de Monsieur le procureur de la République. Elles sont là pour aiguiller, recevoir et faire un suivi. Il y a des fois où elles prennent une famille en compte et les mettent dans un foyer, les hébergent, les éloignent, parce que là, on est dans l'urgence et vraiment le vital.
Les violences conjugales, vous en voyez tous les jours?
Non, mais toutes les semaines. Tout dépend où on met la barre des violences. Nous, déjà, l'humiliation, le rabaissement de la personne, c'est déjà des violences. Quand il y a des violences plus des viols, c'est pas évident de le dire à l'accueil, hein. D'être face à un policier déjà en tenue, donc je représente la loi, mais en même temps ça peut être intimidant, hein. Il ne faut pas les lâcher. Maintenant il y a des dames très organisées qui ont déjà fait un peu un bilan sur leur vie, donc elles préparent leur départ. Elles viennent faire une main courante pour nous dire voilà, je reçois des coups. Et là elles disent moi j'ai vu un médecin, je mets mes enfants en sécurité et je déposerai plainte quand je serai en sécurité et quand j'aurai pris mon indépendance. Et ça on en a quand même pas mal.
Vous avez le sentiment que ça évolue, ça, le comportement des femmes évolue?
Eh bien, oui et non. Oui, parce que certaines en prennent vraiment conscience, et c'est peut-être grâce à l'éducation qu'elles ont eue dans leur famille qui font qu'elles sont bien organisées, elles le préparent. Par contre, il y en a d'autres qui disent, on entend encore souvent, c'est de ma faute si j'ai pas fait ça, j'ai pas préparé les enfants. J'ai pas fait à manger, j'ai mal fait à manger, j'ai pas eu le temps de faire le ménage. Et voilà, ça on l'entend encore, malheureusement. Après, on a aussi une petite recrudescence, on va dire, des dames d'origine maghrébine ou d'Afrique noire qui viennent et qui, elles, ça y est, commencent à dire « je ne veux pas de cette situation ». Et des jeunes, hein, des dames de 30 ans qui viennent. Mais on a aussi des femmes d'origine maghrébine qui ont 60, 70 ans et qui disent stop. Donc c'est triste aussi ça, hein, de voir que c'est des femmes qui ont subi toute leur vie. Et c'est un vrai combat. Hein. Et elles sont très souvent accompagnées de leurs enfants qui leur donnent entièrement raison. Et même de leurs fils qui leur donnent entièrement raison. C'est beau. Moi je trouve que quand les enfants s'impliquent et en plus les fils, je trouve que là on a fait un grand pas, quoi. Elles ont fait un grand pas parce que c'est elles qui en ont le mérite, hein. Voilà. Donc, et généralement ces dames vont jusqu'au bout de leur démarche, parce que malheureusement on en a aussi qui déposent plainte et qui retirent la plainte quelques jours après.
C'est à la victime de décider ce qu'elle a envie de faire de ce qu'elle a subi. Si elle pense qu'il y a d'autres moyens de gérer un mouvement de violence que de le dénoncer, cette décision lui appartient, à condition qu'elle lui appartienne, en sachant qu'elle a réellement le choix et qu'elle peut aussi dire à la société « j'ai été victime de quelque chose qui constitue une infraction et il appartient à la société de réagir par rapport à ça ».
Nadège Bezard est une des accueillantes du Mars à Reims, une association d'aide aux victimes, là où Fatima a trouvé son salut.
Aujourd'hui, une femme victime de violence qui se présente dans un commissariat ou dans une gendarmerie est très bien accueillie, on y est attentif. On est passé d'une époque où on disait, on refusait de prendre la plainte de la femme en disant c'est peut-être pas si grave, etc. Ça, c'était il y a 20 ans. À une époque aujourd'hui où on incite les femmes qui hésitent à déposer plainte à le faire, où on regarde dans la plainte s'il y a des actes criminels, je pense par exemple à des viols conjugaux, où c'est pris, la plainte va être prise en tant que telle, où véritablement, sans doute que certains pourront dire qu'il y a encore des ratés de ce point de vue-là, mais globalement, on entend des femmes qui nous disent qu'elles ont été bien reçues au commissariat et qu'on les a aidées à avancer dans leur démarche de dénoncer les faits dont elles étaient victimes.
Alors Fatima est une de ces victimes que vous avez reçues au Mars, où nous nous trouvons. Fatima, vous avez quel âge ?
J'ai 35 ans.
Vous avez le sourire là aujourd'hui ?
Oui.
Depuis combien de temps avez-vous retrouvé le sourire ?
Depuis 6 mois. Avant, non. Souriez plus, savez plus, ça voulait dire quoi d'être heureuse ?
Pourquoi ?
Parce que mon ex-mari m'a fait vivre un enfer. Par des violences psychologiques et physiques. Quand je me suis mariée avec lui en 2009, il paraissait gentil, attentionné. Et quand j'ai eu 3 mois de grossesse, il a commencé à me frapper. Donc je me suis enfuie en étant enceinte. J'ai posé une première procédure de divorce que j'ai eue par violence. Et il m'a récupérée au téléphone avec des communications où il était gentil, qu'il allait aller voir un médecin, qu'on se réunisse pour l'enfant. Donc je me suis remariée avec lui. Le problème, c'est que les coups étaient encore plus violents. Je sais pas, il m'a mis un couteau dans la gorge quand je dormais, à côté de mon fils. Il m'a dit, regarde, si tu me quittes et tout, c'est facile, en fait. Il m'a fait montrer qu'il pouvait m'égorger. Il me frappait, je supportais. Et le jour où j'ai eu le déclic, c'est quand mon petit, il était malade. Ça faisait une semaine qu'il avait une angine avec 42 fièvres. Et donc, il pleure un enfant quand il a 2 ans. Et lui, il s'est levé, il a voulu frapper le petit. J'ai me donné mon dos et c'est moi qui ai pris les coups. Et quand je suis partie à l'hôpital, j'ai été portée plainte parce que les infirmières à l'hôpital, elles m'ont vu dans quel état j'étais. Et le commissariat, il a pris contact avec l'association Le Mars. Ils m'ont aidée parce qu'autrement, s'ils n'auraient pas été là, Le Mars, ils seraient venus s'excuser. Je leur ai encore excusé.
Vous pensez ça ? Vous auriez pu de nouveau pardonner ?
Oui, parce qu'ils trouvent les mots, en fait. Ils trouvent les mots. Ils disent qu'ils vous aiment, qu'il était dans un état d'esprit où il n'était pas bien. Donc, avec ces mots, ils m'auraient récupéré.
Les violences, elles étaient vraiment graves, importantes.
Mon nez, regardez, mon nez, il est déplacé. C'est lui. Il m'a déplacé l'épaule, la colonne vertébrale. J'avais mal pendant au moins 2 semaines. Des hématomes partout. J'ai été vue 3 fois par des médecins médico-judiciaires.
Comment ça va aujourd'hui ?
Ça va mieux, je me reconstruis, j'ai encore les blessures.
Vous avez toujours peur de lui ?
Oui, ah oui. Je suis divorcée avec lui. Et j'arrive pas à refaire ma vie, j'arrive plus à refaire confiance. Puis même si un homme il va me regarder, j'aurais peur d'un homme. Franchement, maintenant j'ai peur.
Est-ce qu'il vous battait ?
Oui, c'est quand tu l'avais bu. Des gifles. Ils ont empiré avec le temps. Des fois, il me jetait par terre, il m'aidait à me relever, il recommençait.
Pourquoi t'es resté avec lui pendant tout ce temps ? Pourquoi t'as accepté toute cette merde ?
Je suis resté pour toi, Thomas.
Pour toi ? Pourquoi n'êtes-vous pas simplement parti ?
Pour rompre l'isolement des femmes battues, on a créé ce qu'on appelle des coupons violence au commissariat de Reims. Le chef d'état-major, Roger Combes, est à l'origine de ce dispositif.
Il y a quelques années, nous avons mis en place un système de coupons en trois volets qui permettait, quand on intervient, de remettre à la personne victime des violences intrafamiliales, des violences conjugales, un coupon qui lui permettait de prendre contact avec une association d'aide aux victimes. Et nous, de notre côté, avec le coupon que nous ramenions, nous le donnions également à l'association d'aide aux victimes. Donc ce coupon a bien fonctionné, a permis, si vous voulez, de ne pas laisser ces dames seules après les mois des coups. Elles n'avaient peut-être plus envie de parler de cela ou de contacter quelqu'un ou même de venir nous voir pour déposer plainte. Avec ce système de coupons, on avait la trace de notre intervention. Donc le coupon permet sur les trois circonscriptions de police que sont Reims, Chalon et Épernay de fonctionner. Donc la victime peut contacter l'association, mais si elle ne le fait pas, l'association, elle, a également un coupon et contacte la victime.
Oui, parce que le gros problème chez les femmes qui sont victimes de violences, c'est que souvent, elles font machine arrière dans leur démarche de plainte.
En fait, c'est une histoire de « je t'aime, moi non plus ». C'est-à-dire que la femme qui est victime de violence pense toujours que son mari va se réformer. En fait, elle pense qu'il s'agit chaque fois d'un accident. Même si l'accident a lieu tous les soirs, la dame pense que son mari va s'améliorer, qu'il va redevenir gentil. Il y a ce qu'on appelle le phénomène de la lune de miel après les coups. Donc il y a un passage où, effectivement, le mari revient, le mari ou le compagnon, revient vers sa victime, en fait. Puis c'est un bourreau domestique, donc il revient vers sa victime en lui promettant de ne plus lui faire du mal, de ne plus la frapper, de ne plus la battre, de ne plus la harceler. Parce qu'il n'y a pas que les coups, il y a aussi le harcèlement moral. Hein. On n'en parle pas suffisamment, mais il existe. Hein. Les femmes sont humiliées, parfois elles sont ramenées à quelque chose qui tient effectivement à ce moment-là du déni de l'existence même de cette femme. Il y a une perte d'identité terrible au sein du couple. La dame n'est plus rien. C'est véritablement plus rien. Et donc, à partir de là, effectivement, elle veut déposer plainte. Elle vient nous voir. Elle fait parfois des démarches. Elle va jusqu'au bout. Et puis, à un certain moment, elle se dit que non, pour diverses raisons qui sont à l'infini, l'amour, les enfants, une dépendance financière, une dépendance parfois également au niveau de l'habitat. Enfin, pour X raisons, elle revient et elle dit que finalement, non, tout ça va s'arranger. Donc ces coupons, justement, sont faits pour ne pas laisser ces dames dans ce refus d'aller plus loin, d'aller davantage encore de l'avant.
Il y a les coupons violence, d'une part, et il y a d'autre part la protection des femmes en très grand danger, qui est expérimentée aussi dans la Marne.
Il y a effectivement maintenant un système qui s'appelle donc Femmes en très grand danger, où c'est monsieur le procureur qui délivre donc un téléphone portable à une dame qui se retrouve donc dans un très grand danger si elle venait à être en présence de son bourreau une fois de plus, à savoir son mari, son compagnon, ben son ex en tout état de cause. Et donc, à partir du moment où elle a ce téléphone, il suffit qu'elle appuie sur un bouton avec un numéro préenregistré et un télésurveilleur est avisé immédiatement, qui lui-même nous avise immédiatement, et nous, on dépêche immédiatement, j'insiste, trois fois immédiatement, on dépêche donc un équipage chez la victime. Mais tout cela se fait en secondes, on ne compte même pas en minutes.
Parce que le danger est vraiment là, c'est pour répondre à un comportement de prédateur quand même.
Oui, tout à fait. Ce sont des nouveaux prédateurs sociaux, hein, de tous les niveaux socio-professionnels, de toutes les tranches d'âge, dans tous les habitats, dans tous les quartiers. C'est véritablement Monsieur Tout-le-Monde qui se transforme en barbe bleue, quoi. C'est terrible, terrible.
Une dizaine de téléphones grand danger sont ainsi attribués dans la Marne aux femmes les plus menacées, sous le contrôle des parquets de Châlons-en-Champagne et de Reims, où Fabrice Belargent est procureur de la République.
Monsieur le procureur, pourquoi est-ce qu'on décide d'attribuer un téléphone à une femme en danger?
Alors, la notion, c'est pas la notion du simple danger, c'est la notion de très grand danger, hein, qui est visée. Bah, en fonction du contexte dans lequel se passe le ou les épisodes de violence, la personnalité de l'auteur des faits, est-ce que c'est un récidiviste, est-ce que c'est un multirécidiviste, l'intensité des violences, les menaces qui ont accompagné ces violences. Il y a tout un ensemble de critères qui font qu'on apprécie, c'est le procureur de la République qui apprécie s'il y a lieu ou non à la remise d'un téléphone portable. Alors avec toute la subjectivité que peut avoir une telle analyse, bien sûr.
Mmh. Ça veut dire quand même qu'il s'agit de violences particulièrement graves.
Ouais, tout à fait, il n'est pas question d'instaurer un droit au téléphone portable. C'est nécessairement, puisqu'il y a 10 téléphones qui ont été attribués au département, c'est nécessairement utilisé dans le cadre de situations particulières pour les victimes pour lesquelles on estime qu'elles courent un très grand danger physique.
Par exemple, si le conjoint sort de prison après avoir été condamné pour des violences.
Effectivement, il y a deux situations dans lesquelles on peut attribuer un téléphone. Tout de suite après l'épisode de violence, admettons que le conjoint a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contacter la victime, mais il est encore libre. Et la deuxième situation, c'est une remise programmée. C'est-à-dire le jour de la libération de détention du conjoint, on va remettre un téléphone portable à la victime. Ce qui permettra effectivement, en cas de tentative de prise de contact par le conjoint, de se servir de ce téléphone.
Ça paraît être un dispositif assez lourd quand même pour simplement maîtriser la violence d'un homme.
Alors, effectivement, c'est un dispositif qui est lourd, qui est coûteux. Pour 10 téléphones portables, la première année, on a un coût de 27 000 euros, hein, ce qui est pas négligeable. Mais très concrètement, on peut penser que ce dispositif sauve des vies. Alors, s'il sauve ne serait-ce qu'une vie par l'intervention plus rapide des services de police, je pense que ce dispositif vaut la peine qu'on engage effectivement des moyens financiers un petit peu hors normes.
Le parquet de Reims a par ailleurs instauré un suivi des hommes violents dès leur premier écart, même quand les victimes retirent leur plainte. Retour au Mars, où Maud Rieffel et Samuel Nourry co-animent ces groupes de responsabilisation.
Donc dans la formulation, je sais que je pinaille un peu sur le côté on nous pousse à bout. Je tiens à la formulation parce que si tu dis on me pousse à bout, c'est comme si toi t'avais pas de maîtrise dessus. Alors qu'en fait t'en as une de maîtrise. Tu peux arrêter les choses avant qu'elles deviennent insupportables. Oui. La maîtrise qu'on peut avoir à mon avis c'est
avant. Il y avait une grosse demande de la part des personnes victimes de s'occuper également des conjoints parce qu'elles avaient l'impression, hein, souvent et à juste titre, de subir totalement la situation, de devoir elles-mêmes faire des changements très importants au cours de leur vie, sans pour autant que le conjoint en question puisse se remettre en question à aucun moment. Donc c'est d'une part cette volonté des personnes, mais également par rapport ici au parquet, de vouloir apporter une réponse à chaque fois qu'il y avait un acte violent de poser et que les conjoints se mettent eux-mêmes à penser leurs actes, leurs violences, et bien sûr pour éviter la récidive.
Ouais, c'est se responsabiliser, c'est apprendre aussi à donner du contrôle et de la maîtrise de ses émotions, de ses colères. On pratique beaucoup la gestion de colère dans ce groupe. Montrer qu'ils ont une possibilité de maîtrise et que ce n'est pas plus fort qu'eux, et que ce n'est pas quelque chose qui les dépasse, mais qu'ils sont en capacité de maîtriser et de contrôler. Au travail, ils ne pètent pas des plombs. Au travail, ils ne sont pas violents. Avec leurs amis, c'est extrêmement rare. Et dans un cadre conjugal, ça s'est produit. Donc, ils sont en capacité de le maîtriser.
Ces hommes violents, ils sont demandeurs de ça ?
Pour ce qui est du groupe, non, ils ne sont pas demandeurs, ils sont obligés. Ils sont obligés. Ils ont été convoqués par le tribunal, par les délégués du procureur, et ils ont accepté de participer au groupe, sachant que s'ils refusent, a priori, le dossier repart devant le parquet, qui décide de poursuivre ou pas. Donc ils peuvent se retrouver devant le tribunal correctionnel s'ils refusent la participation au groupe.
C'est une injonction, en tout cas.
C'est une injonction, mais qu'ils signent et qu'ils peuvent refuser.
J'ai frappé mon ex-compagne, en fait. C'est mal passé entre nous et du coup j'ai levé la main sur elle.
Donc vous avez eu affaire à la justice à cause de ça ?
Oui, voilà, c'est ça. Je suis pas un garçon violent. Un jour elle m'avait manqué de respect, ça s'est parti vraiment loin et je l'ai frappé. Et puis après, tout de suite après, j'ai réagi, je me suis excusé et tout. En fait, ce jour-là, c'était juste un mauvais moment, en fait, que j'étais pas bien après une journée de travail. Il y avait pas mal de soucis. Après, ensuite, c'est le procureur, et je lui ai bien expliqué comme quoi... Elle a voulu assister avec moi, elle a dit que c'était une erreur, elle a jamais levé la main sur moi. Et après, j'ai regretté, j'étais pas fier, et je me suis excusé. J'ai honte et tout. Mais après, on est parti voir la police, elle a retiré sa plainte, et ça s'est bien passé. Après, ensuite, tout était réglé.
Et vous êtes de nouveau avec elle, là?
Non, là maintenant, non, ça s'est fini. Après, il y a quoi, 3-4 mois. Mais en tout cas, après le souci, ça s'est très bien passé. Si on s'est séparé, on a divorcé, c'est pour autre chose.
Donc vous avez le sentiment que vous avez été poussé à bout?
Ah oui, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Parce que moi, je suis quelqu'un de calme, posé. C'est tout l'inverse de mon ex-compagne. Si jamais de la vie, je relèverai la main sur quelqu'un. Je recommencerai pas, c'est même... C'est sûr, hein. Ça, je suis sûr de moi.
Bon, merci bien.
Oui, pas de souci. Allez, bonne fin de journée.
La remise en question des hommes violents est rarement spontanée. Analyse de Thierry Delcourt, psychiatre et psychanalyste, qui commence à recevoir quelques-uns de ces patients-là dans son cabinet.
Heureusement, maintenant, on les reçoit. Voilà comment on pourrait dire. Des hommes violents et qui, à un moment donné, s'interrogent sur leur comportement qui leur paraissait avant évident et qui devient quelque chose de dérangeant pour eux aussi, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Parfois, ils viennent pour se donner bonne conscience par rapport à leur violence. Mais si je suis violent, c'est quand même parce qu'elle est violente, ou c'est parce qu'elle m'a fait ceci ou cela, ou parce qu'elle ne suit pas mes directives. Ça peut être cette demande-là. Où ils viennent en disant « si je ne le fais pas, je vais la perdre, donc je vais le faire, donc je vais me soumettre ». Mais ça n'est pas de gaieté de cœur que je me soumets à ça. Et puis, il y a d'autres hommes qui sont en souffrance par rapport à cette violence. Et c'est là que c'est le plus intéressant. Mais il faut dire que ce n'est pas la majorité des patients dans cette situation. Et il faut dire aussi que dans les consultations psychiatriques, par rapport au nombre de violences qu'on connaît de la part des hommes, finalement, ils viennent assez peu nous voir. En tant que psychiatre, j'ai une partie de mon exercice qui est de pédopsychiatrie. Donc je reçois des enfants et des adolescents à qui il arrive de taper sur leur mère, hein, d'être maltraitant, avec quelque chose qui nous permet de comprendre la violence des hommes dans l'historique culturel. C'est-à-dire que la violence des hommes, elle se réfère aussi à leur mère. Non pas à la responsabilité d'une mère, mais à l'illusion dans laquelle ils sont d'une forme de toute puissance, c'est-à-dire ce que je veux, comme je veux, et dans une position qui, de l'autre côté de la Méditerranée, est parfois une position de prince, finalement. Mais des princes, j'en reçois de plus en plus parmi les jeunes enfants, et des princes qui n'hésitent pas à un moment donné, y compris en consultation, à insulter leur mère, ou si elle dit quelque chose qui ne leur plaît pas, venir taper dessus. Donc voilà, la violence, elle est là aussi.
Ça va, t'as passé une bonne journée?
Je suis éclatée.
Ah. J'ai préparé des côtes de porc et des haricots, ça te va?
Ouais. T'as pensé à prendre les chemises au pressing?
J'y suis allée, c'était trop tard, c'était fermé.
Attends, mais tu rigoles là, ou quoi?
Ils nous ont pas prévenus en plus.
J'ai rendez-vous demain, avec le DG.
Ben oui, mais t'énerves pas.
Je m'énerve pas, mais je t'ai dit de récupérer mes chemises, c'est pas pour rien. Tu veux me mettre en colère ou quoi? Pour une histoire de chemise, tu veux me mettre en colère? Hein? T'as rien à faire de la journée, on va pas au pressing à la dernière minute.
J'ai fait les courses et puis...
T'es qu'une incapable. Va ramasser, dépêche-toi, va ramasser. Dépêche-toi, va ramasser, je te dis. Espèce de merde, va ramasser.
J'ai vécu ce qu'on peut appeler des violences conjugales.
Marie a 47 ans aujourd'hui, elle en avait 15 quand elle a rencontré son ex-mari.
Ça s'installe de façon très insidieuse, très lente. Il y a surtout une dévalorisation de soi-même par cette personne. Et on dirait qu'il inverse les rôles en fait. On dirait que je deviens une mauvaise personne et qu'il me le souligne, et non pas que c'est lui qui peut me faire du mal. Parce que le mal n'est pas que physique. Quand je pense mal physique, je pense viol, c'est-à-dire rapport sexuel non consenti. Donc il y a déjà cette violence-là. Il peut y avoir une violence physique gratuite. Un exemple qui me vient à la tête, un match de foot qui ne se passe pas bien, je me prends des coups de coussin, voilà, comme si c'était de ma faute. Et ce qui est bizarre, c'est que au bout d'un moment, on croit vraiment que c'est de sa faute, quoi. On n'est pas celle qu'il faudrait être.
voudrais juste qu'on revienne sur les coups. Ils étaient brutaux, parce que vous parlez de coussins, il n'y avait pas que ça.
Ah non, 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 non. Alors, c'était souvent en dessous de la gorge, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, c'était surtout des bleus au niveau des entrecuisses, des hanches ou même des bras. C'était des marques que j'avais sur les jambes, sur... voilà, ça fait mal, mais ça se voit pas, donc on n'en parle pas. J'étais issue d'un milieu, ce qu'on peut appeler bourgeois, donc on en parlait encore moins. J'ai essayé d'en parler à ma sœur, mais c'était inentendable. À l'extérieur, c'était un homme charmant, qui s'occupait très bien de sa femme, de ses filles, l'homme parfait. Jusqu'au moment où on fermait la porte de la maison, où là, c'est une sorte de schizophrénie, quoi. C'est autre chose, quelqu'un d'autre qui s'énerve pour un rien. Donc les violences pouvaient être sur moi-même ou sur mes filles. J'ai remarqué, j'ai reçu des coups vraiment physiques enceinte de ma première fille. Il n'aimait pas ce ventre. Il me trouvait écœurante, à vomir, alors que j'étais censée... avoir les 9 mois les plus beaux de ma vie. Ça a été 9 mois de cauchemar, mais avec le recul. Parce qu'encore une fois, je n'avais pas possibilité d'en parler. N'ayant plus de maman, j'avais pas de repère maternel. Donc je me disais, c'est peut-être normal, en fait. En fait, j'avais inversé la normalité.
Sa profession, juste.
Ingénieur. Ingénieur. C'est pas... ça se produit dans tout milieu. Et je dirais que les peu de femmes que j'ai pu connaître victimes de violences, celles qui sont d'un milieu aisé, comme on dit, ont eu encore plus de difficultés à s'en sortir. Quand j'ai contacté mon père pour lui dire « Voilà, je vais divorcer, je vais partir, pour toutes ces raisons. » Donc pour lui, ça a été insupportable. Et sa réponse a été « Dans la famille, on ne divorce pas. » Donc vraiment, c'est les deux messages que j'ai vraiment dans mon cœur, c'est parler, arrêter de se taire et penser aux conséquences sur les enfants. On est tellement dans un cadre en se disant « Même s'il a été un mauvais mari, il faut continuer le lien avec le papa, c'est important. » Ben non. Parce que des fois, justement, il se sert de ce lien pour continuer à vous détruire. Mais vous ne le voyez pas, vous. Donc il vous fait de vos enfants des petits soldats qui, eux, vont vous faire du mal avec le temps. Et les choses continuent. Aujourd'hui encore, j'ai des grosses difficultés avec mes enfants parce que ce sont de bons petits soldats. Mais ce n'est pas de leur faute. Donc en fait, la maltraitance de la mère, de mari, est quelque chose de normal. On n'a pas à la respecter, on n'a pas... Et ça fait pas très longtemps que je l'ai compris.
Des hommes puissants, des femmes soumises, c'est donc toujours vrai, si on en croit l'avocate Hélène Maréchal, bâtonnier de Châlons-en-Champagne.
D'abord, à la base, il y a des sentiments, il y a de l'amour. Donc, ça ne s'évapore pas à la première baffe. On pardonne, on essaye de revenir, on essaye de reconstruire ce couple. Mais il y a aussi l'idée, le qu'en dira-t-on, enfin, puis toute une pression sociale qui fait que ça reste difficile pour une femme d'assumer, de dire que son mari est un homme violent, que le père de ses enfants est violent.
Ça intervient dans tous les milieux ?
Alors, je dirais avec peut-être plus de chance pour celles qui vivent en HLM, parce que ça fait du bruit, les violences, et donc ça dérange les voisins, donc on appelle la police. Elles ont quelquefois de meilleures chances de s'en sortir qu'une femme qui, effectivement, se fait violenter dans un pavillon, au milieu d'un grand jardin, et qui n'aura donc aucun secours dans ce cas-là. Et malheureusement, ce sont des choses qu'on voit aussi. C'est quand même plutôt le fait de femmes qui vont arrêter de travailler à un moment donné, peut-être pour élever les enfants, qui à un moment donné vont s'isoler socialement. Un grand classique aussi, c'est de voir une femme qui dit « mais j'ai pas de preuves, personne ne me croira parce que c'est quelqu'un de tellement sympa, il est gentil, il rend service à tout le monde ». Enfin, souvent, c'est un homme qui est très inséré socialement, qui a tout un tas d'amis. Il ne devient violent, il ne devient humiliant qu'une fois que la porte est fermée.
Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un problème dont on n'a pas encore pris la mesure ?
Le cœur du problème, c'est l'image de la femme et l'image qu'elle a d'elle-même et de son rôle dans la société. C'est vraiment dans la relation de base entre hommes et femmes qu'il faut régler le problème, à mon avis. Ce qui me surprend, par exemple, encore, c'est de voir des femmes qui ont 40, 50 ans, qui sont insérées, qui ont quand même un vécu de femme, je dirais, libérée, accepter des rapports sexuels contraints. Alors, pas forcément violents, mais bon... Voilà. Donc ça, c'est encore des choses... Bon, le viol conjugal, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement fréquent. Ça m'est arrivé encore récemment de dire à une femme « Mais vous n'êtes pas obligée d'avoir des rapports sexuels avec votre mari si vous n'en avez pas envie. » Ah bah oui, mais le devoir conjugal. Je veux dire, cette idée-là, par exemple, elle demeure quand même. On rencontre encore des femmes qui vous disent « Mais je suis obligée, c'est mon mari. »
Cette femme, c'est un vrai boudin. Rien ne lui va. Elle fait tout pour se faire draguer. C'est une vraie traînée. Cette femme a des copines, mais elles sont aussi connes qu'elle. Cette femme, c'est la mienne.
Je suis Karine Bonne, directrice et juriste du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de la Marne. Alors, il y a une étude qui vient d'être faite au niveau européen et qui nous apprend qu'une femme sur trois est victime de violences. Les violences faites aux femmes ou les violences de couple particulièrement, ça n'est pas un conflit privé. Ça relève du droit pénal et c'est un problème de société. C'est anormal que dans une société, une femme décède tous les 2 jours et demi en France, qu'une femme soit violée toutes les 7 minutes en France. Voilà, c'est juste anormal. On est dans une rupture d'égalité. La violence, c'est un rapport de force dominant-dominé où l'égalité est rompue. Or, l'égalité fait partie de toute société de progrès. Donc si aujourd'hui il y a autant de violences, et majoritairement envers les femmes, et majoritairement commises par des hommes, c'est bien qu'il y a une rupture d'égalité, et qui vient, cette rupture d'égalité, d'une domination masculine ou d'un héritage patriarcal. Dans le code Napoléon en 1804, les femmes, les enfants, les fous étaient placés au même rang que les animaux. Les animaux ne sont pas sujets de droit, ils sont objets. On peut tout se permettre. Alors heureusement, fort heureusement, hein, ça a changé. Les femmes sont bien sujettes de droit aujourd'hui, y compris dans le code civil. Mais voilà, c'est un problème de société qui nous concerne toutes et tous. Ouais. Ça touche toutes les catégories socio-professionnelles. On est dans un rapport dominant-dominé. Mais je trouve quand même que depuis quelques années, on en parle plus et de plus en plus.
Et ça vous rend optimiste ?
Oui, mais non, parce qu'on se dit que c'est tellement présent que même si on met tous les dispositifs, toute la bonne volonté du monde et toute sa force dans cette lutte, on en voit quand même tous les jours. Enfin, dans un CIDFF, on voit des femmes détruites tous les jours. Et il y a surtout une chose là qui me fait peur et qui risque de remettre un petit peu en cause tout ça, ce sont les courants masculinistes. La femme a une vocation de mère et en gros doit s'arrêter à ça. Et qui fait reculer la société, qui fait reculer tous les combats et tous les droits des femmes. Oui, il y a de quoi s'inquiéter, oui. Mais nous continuons.
Le sentiment premier que vous avez quand vous êtes une femme victime de violences conjugales est la honte. Donc vous ne parlez pas. Et du moment où vous en parlez, déjà de façon thérapeutique, vous vous apaisez. Et vous vous rendez compte que l'auteur de tout ça est intimidé du fait que vous en parliez, parce que j'ai parlé parfois sur une grande chaîne de télévision, je me suis lâchée en fait, avec une peur au ventre, mais je me disais de toute façon, peut-être qu'une femme va m'entendre, et peut-être qu'une femme aura le courage, peut-être qu'une femme sera sauvée, alors je dois le faire. Et en fait, l'effet, c'est qu'il ne m'a plus ennuyée, peut-être que je lui ai fait peur en fait, ça a été inversé, je sais pas.
Est-ce que c'est pas ça, au fond, le message le plus important à faire passer auprès des femmes
victimes ?
Absolument.
Il faut arrêter de se taire. C'est... D'abord, c'est tellement libérateur. Et pour qu'un homme fracasse une femme, mais c'est le mot fracasser dans le sens physique, psychique, économique, etc., c'est que c'est un faible.
Femme battue. Les coups de foudre, c'était un reportage de Monique Desrien de France Bleu Champagne, prise de son Maitran, mixage Jason Taous, réalisation Anne Lureau, assistée de Jérôme Boulet. Je vous souhaite une très bonne journée.